Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être encore à l'écoute de Métropolez-vous. Bienvenue aux fidèles et aux nouveaux auditeurs de cette émission. S'il y a plusieurs sujets et projets à gros enjeux pour l'avenir de la métropole toulousaine, tous ceux qui concernent les déplacements et ce qu'on a coutume d'appeler désormais la mobilité et même les mobilités tiennent une place centrale parmi eux. Il suffit de se déplacer par quelques moyens que ce soit dans Toulouse et à sa périphérie pour constater les difficultés que l'on rencontre régulièrement à certaines heures de la journée. Certes, ce n'est pas propre à la métropole toulousaine. Toutes les grandes villes françaises sont concernées par ce problème. Il n'en reste pas moins que Toulouse, avec sa forte démographie et sa croissance économique, y est de plus en plus confrontée et qu'elle doit trouver les solutions pour y répondre. Un certain nombre de dispositifs et de plans ont été mis en place à cet effet. D'autres projets sont en cours de réalisation, entre autres le projet Commut, dont vous commencez peut-être à entendre parler. C'est pour vous permettre d'en savoir plus que ce numéro de Métropolez-vous est justement dédié aux enjeux et objectifs du projet Commut. Et pour nous faire découvrir les enjeux et les objectifs du projet Commut, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un élu particulièrement impliqué dans la problématique des mobilités de la métropole toulousaine, Jean-Michel Latte, premier adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports et des déplacements, président de Tisséo Collectivité. Bonjour monsieur le vice-président, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Pour que nos auditeurs se fassent une première idée de Commut, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est le concept général de ce projet?
Alors, le projet Commut, c'est un projet européen qui vise à travailler sur la congestion et les conséquences de la congestion, donc le gaz à effet de serre en particulier, et qui pousse les opérateurs privés et publics à rechercher des partenariats permettant d'améliorer les mobilités.
Alors, ce projet, évidemment, s'inscrit dans un contexte général. Quels sont à ce jour les autres dispositifs, les plans déjà mis en place dans le domaine de la mobilité sur le territoire de la métropole?
Alors, le principal plan, c'est bien entendu ce qu'on appelait le plan de déplacement urbain, ce qu'on appelle aujourd'hui le projet mobilité de l'agglomération toulousaine, et porté par Tisséo. C'est ce grand projet qui va jusqu'en 2030, avec 4 milliards d'euros d'investissement, et dans lequel on trouve à la fois la troisième ligne de métro, le développement du réseau, mais aussi les modes doux, vélo, marche à pied, etc. etc. Cet immense projet extrêmement polyvalent dans ses effets, est sans doute le principal outil de la mobilité.
Qu'est-ce que Commut va apporter en plus? Est-ce qu'il vient combler des manques? Est-ce qu'il vient en anticiper, en éviter?
Alors Commut, c'est l'innovation. C'est l'innovation sur une zone très identifiée. Je crois que cette notion de zone est importante. Qu'est-ce qui a fait que l'agglomération toulousaine a gagné ce projet Commut? C'est d'abord l'identification d'une zone qui est très marquée. C'est la zone aéroportuaire, Airbus, ATR, les personnes et groupes qui travaillent avec Airbus. Enfin, vraiment une zone qui est très connue, y compris à l'échelle européenne. On peut dire que c'est une zone européenne. Et cette zone a des difficultés très spécifiques. Une croissance de l'emploi considérable et des outils de mobilité qui n'ont pas bougé assez vite pour s'adapter à cette croissance.
Eh bien, j'espère que cette description de Commut et des plans déjà existants dans le domaine des mobilités à Toulouse aura éclairci les choses pour nos auditeurs. Elle pose en tout cas les bases de l'échange que nous allons avoir dans quelques minutes avec Jean-Michel Latte, en rentrant dans le détail du projet, de ses enjeux et de ses objectifs. Dans les médias, nous allons nous plonger dans l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son traditionnel flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Nous commençons ce flash avec une information importante pour le monde économique, la signature de la première convention pour la prospection et l'accueil d'entreprises entre l'agence régionale ADOC et l'agence d'attractivité de Toulouse Métropole.
Oui, objectif: maintenir et renforcer l'attractivité économique de la capitale mondiale de l'aéronautique et de l'espace face à une concurrence toujours plus vive et participer aussi au rayonnement à l'international et à l'attractivité des territoires. La signature de cette convention, qui inclut aussi la région Occitanie, concrétise ainsi les conditions de collaboration sur l'accueil d'entreprises exogènes. Elle définit notamment les modalités de la communication stratégique et opérationnelle entre les agences, la coordination de leurs stratégies et de leurs plans de prospection ou encore la coordination sur les réponses aux demandes d'information des entreprises et sur les visites de territoire.
La deuxième information concerne les énergies renouvelables et le développement durable. Dans le cadre de son plan climat air énergie territorial, Toulouse Métropole encourage le développement d'énergies vertes sur son territoire.
Oui, actuellement, Toulouse Métropole développe plusieurs projets photovoltaïques qui représentent la consommation électrique de plus de 25 000 habitants. Depuis 10 jours, un site internet permet aux particuliers, professionnels et collectivités de connaître rapidement le potentiel solaire photovoltaïque et thermique de leur toiture et d'accéder à toutes les informations pratiques pour s'équiper de panneaux solaires et ainsi contribuer à la transition énergétique, une analyse qui peut se réaliser grâce aux données issues de la NASA et de Météo France. L'utilisateur peut ainsi être mis en relation avec un installateur professionnel du territoire afin d'avoir un chiffrage précis pour concrétiser son projet. Les installateurs référencés sont labellisés RGE, reconnus garants de l'environnement et retenus pour la qualité de leur expérience ainsi que par leur prix compétitif. Cette plateforme web développée par Toulouse Métropole en collaboration avec la start-up Inson We Trust est disponible à l'adresse toulouse-métropole.insonwetrust.solar.
Et nous allons terminer ce flash en restant un peu dans cette idée de développement durable. Une aire de covoiturage a été créée à Pibrac pour fluidifier le trafic.
Oui, financée à 80% par des fonds européens, cette aire de covoiturage s'inscrit dans le cadre du projet de mobilité urbaine Commute, une initiative inédite et innovante en France visant notamment à rationaliser les déplacements quotidiens et trouver des alternatives à la voiture individuelle. L'aire de covoiturage se compose de 26 emplacements pour véhicules légers, d'une place dédiée aux personnes à mobilité réduite et de deux places réservées à la recharge de véhicules électriques. Le projet Commute que coordonne Toulouse Métropole expérimente un dispositif de gestion collaborative de la mobilité urbaine. L'initiative implique les principaux acteurs publics et privés de la zone aéronautique. Elle vise à décongestionner le trafic dans et autour de cette zone. Alors que la métropole toulousaine enregistre depuis plusieurs années des records de croissance démographique, hein, plus 15 000 personnes par an, il s'agit aussi ici de résoudre l'équation de la mobilité, de l'impact environnemental et de la qualité de vie, et ce sans compromis pour l'attractivité du territoire.
Alors Jean-Michel, là, je vais vous demander de réagir, bien sûr, la dernière information de ce flash, puisqu'elle concerne notre sujet du jour, mais je crois que vous aurez aussi des choses à dire sur les deux premières. Tout d'abord, un mot sur cette aire de covoiturage créée à Pibrac.
L'enjeu, c'est quoi? C'est de passer d'un véhicule individuel à un usage collectif. C'est de penser que la personne qui est seule dans son véhicule, elle pourrait être accompagnée et donc améliorer les mobilités et la congestion. Mais globalement, ces trois informations finalement concernent Commute. L'accueil des entreprises, c'est le problème majeur de la zone aéroportuaire. L'énergie verte, c'est aussi un sujet majeur. On aura en octobre une transformation de la navette aéroport qui va devenir une navette électrique. Et puis, bien entendu, ce projet de covoiturage qui, lui, est directement lié à Commute. C'est un financement européen, donc, de ce nouveau moyen de se développer. Aujourd'hui, on partage sa voiture.
Merci d'avoir précisément complété les informations de notre flash hebdomadaire. Nous enchaînons maintenant en revenant au thème de cette émission consacrée, je le rappelle, au projet Commute, à ses enjeux et ses objectifs.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la suite avec notre invité du jour Jean-Michel Latte, premier adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports et des déplacements, président de Tisséo Collectivité. Pour commencer, une information importante que vous avez un petit peu dévoilée tout à l'heure, sur laquelle je voudrais que vous apportiez des précisions. Commute est donc un projet de dimension européenne et même il s'inscrit dans un programme européen. Est-ce que ça veut dire que vous avez déposé un dossier et que ce dossier a été accepté parmi beaucoup d'autres?
Oui. C'est un dossier collectif. Il y avait 16 lauréats sur un nombre très important de candidats. C'est un projet qui est un projet public-privé. Ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire, on y retrouve Toulouse Métropole, on y retrouve Tisséo, bien sûr, mais on a derrière Safran, Airbus, l'aéroport, bien sûr, ATR, Sopra, Steria, Fnord, et puis le Club Réussir, club d'entreprise de Françoise Barutello, qui est aussi un club important puisqu'il anime ce groupe. Donc il y a un mélange d'opérateurs privés et d'opérateurs publics qui ont candidaté, et ça a été une des conditions de la réussite.
Alors, qui dit programme européen, dit financement européen. Combien apporte, si je puis dire, dans la corbeille, l'Union européenne dans le financement de ce projet?
Alors, le budget global est supérieur à 5 millions d'euros. Sur ces 5 millions d'euros, 80% sont apportés par l'Europe. Les 20% restants sont ce qu'on appelle des fonds partenaires, avec les partenaires que je viens d'énumérer, qui prennent leur part à ce financement. Mais 80% de financement européen, c'est un taux tout à fait important. Je rêverais d'avoir un financement de la troisième ligne à 80% par l'Europe. Mais voilà, donc c'est très significatif. C'était vraiment une opération, j'allais dire, qui valait le coup. Il fallait s'y investir. Et la condition de la réussite, c'était ce partenariat public-privé.
Alors, le contexte général de la mise en place et du déploiement de Commut à Toulouse, vous avez parlé tout à l'heure de cette forte croissance démographique, de la croissance de l'emploi, des difficultés grandissantes d'accès à l'aéroport. Et puis, il y a aussi un autre aspect quand même, me semble-t-il, c'est ce périphérique, on en parle souvent, saturé, de plus en plus saturé, avec un trafic grandissant, avec inévitablement la hausse de production de gaz d'échappement. Donc, il n'y a pas que des enjeux économique et de mobilité, il y a aussi des aspects environnementaux, même de santé publique dans
bien
ce projet.
Bien sûr. L'enjeu de la mobilité sur la santé publique, c'est avant tout l'air que l'on respire. Hein. Et donc, dès que l'on peut baisser la mobilité individuelle par automobile et transformer cette mobilité en une mobilité collective, une mobilité propre, on améliore la situation. Donc l'enjeu majeur, j'allais dire, c'est la santé publique et l'amélioration de la qualité de l'air.
Pour donner une note de grandeur à ceux qui nous écoutent, c'est combien d'emplois la zone aéroportuaire?
Alors, si on se fixe sur la partie aéronautique, on est autour de 70 000 emplois, mais beaucoup plus. Si on intègre toutes les entreprises de la zone, avec les majors de l'informatique qui sont présents, avec les sous-traitants d'Airbus, etc., etc. Donc, je pense qu'on peut considérer qu'on dépasse les 100 000 professionnels autour de cette zone.
Est-ce qu'il donne une idée du nombre de déplacements quotidiens que ça génère vers cette zone?
C'est la plus grande zone d'emploi de l'agglomération toulousaine.
En quoi consiste le projet, les moyens mis en œuvre, ses enjeux et ses grands axes?
Alors, on a trois axes majeurs qui définissent les dispositifs. On va jouer sur des leviers que j'appelle professionnels. C'est quoi les leviers professionnels? C'est le télétravail, c'est la modulation des horaires dans les entreprises. L'entreprise s'aperçoit que si elle décale un petit peu ses horaires, c'est plus simple. C'est la vidéoconférence, l'audioconférence, tous ces dispositifs-là. C'est bien entendu, ce sont plutôt des leviers mobilité, avec les modes doux, vélo, avec ce qu'on vient d'évoquer, covoiturage, autopartage, avec une recherche vers les navettes autonomes, hein, ça fait partie du projet, et puis la volonté de mettre en place des pôles d'échange multimodaux qui permettent de tout greffer sur ce dispositif. Et puis, il y a l'équipement public-privé qui vient compléter ce dispositif, avec les parkings de covoiturage, on y revient, avec les bornes de rechargement pour les véhicules électriques, c'est important. Et puis, quelque chose qui est très nouveau, mais qui, à mon avis, va connaître un grand succès, ce sont les espaces de coworking. Est-ce qu'il est nécessaire d'arriver jusqu'à l'entreprise, ou est-ce qu'on peut s'arrêter un peu avant, le temps que la décongestion s'opère, et on travaille pendant une heure, deux heures, et puis on repart vers l'entreprise au moment où la fluidité est là.
J'ai vu qu'il était question de la création d'une plateforme numérique dédiée à la mobilité urbaine. Qu'est-ce que c'est?
C'est un grand élément du projet. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? Il y a l'innovation et les nouvelles technologies. On peut aujourd'hui faire des choses que l'on ne pouvait pas faire autrefois, grâce, j'allais dire, aux outils partagés de numérisation. Et donc, on a la volonté de mettre en place sur cette zone, d'abord sur cette zone bien sûr, un dispositif qui permette à tous de connaître les meilleurs outils de mobilité, les meilleurs moments de mobilité, etc., etc. C'est-à-dire une plateforme informative qui permet à quelqu'un qui se déplace sur cette zone d'optimiser son déplacement.
Est-ce que ça veut dire qu'à terme, sans doute pas tout de suite, on pourra en temps réel savoir au moment où on va prendre sa voiture ou quel mode de déplacement que ce soit, le bon circuit qu'il faut faire pour arriver à son point de travail le plus rapidement possible, oui, sans risquer d'être bloqué à un moment donné? On va arriver à ça?
Ça sera à la fois le bon circuit et le bon outil. Vous allez avoir sur votre plateforme, quand elle sera vraiment finalisée, d'abord le trajet le plus fluide. Et puis, on va vous dire, au-delà du trajet, vous avez intérêt à vous rendre sur telle zone de covoiturage parce que là, il y a des personnes qui font le même trajet que vous et qui pourront mutualiser le déplacement. Ou alors, on va vous dire, vous avez un accès vers tel outil, métro, bus, tram, qui peut vous permettre d'optimiser, de réduire votre temps de parcours. C'est vraiment quelque chose d'innovant. On va voir quel en sera le résultat, mais je suis très optimiste.
J'ai vu qu'il était aussi question d'évaluer les expérimentations qui vont être réalisées. Ça sera fait selon quels critères, en étant très pratique, bien sûr?
Alors, tout dépend de la finalité. Par exemple, on a lancé une plateforme de covoiturage sur l'espace en cause. Mais là, on va avoir des critères très faciles à déterminer. Combien participent à cette plateforme? Combien de salariés ont fait le choix de s'y inscrire? Quels sont les usages par jour qui s'opèrent? Et puis, on aura d'autres évaluations qui vont suivre l'amélioration de la qualité de l'air dans la zone, le changement de mode de transport. Est-ce qu'on est passé au mode doux? Est-ce qu'on est passé au transport en commun, etc.? Tout ça, c'est mesurable. Et c'est ce qui nous permettra de dire on a réussi ou on a échoué. Je pense qu'on va réussir.
Il y aura peut-être un autre critère aussi qui sera l'accidentologie.
Ça participe au dispositif. Souvent, la congestion est d'ailleurs liée sur cette zone à l'accidentologie. Il suffit qu'on ait ce grain de sable
Absolument.
Que constitue l'accident pour que tout soit bloqué.
Les objectifs généraux du dispositif, quels sont-ils?
Alors, l'objectif, c'est d'inscrire cette expérimentation dans le dispositif plus large que constitue le plan de mobilité. On a un focus qui est fait sur une zone qui va nous permettre de mesurer la réussite de nos expériences sur un espace géographique déterminé. Et si cet espace s'améliore dans la mobilité, on va pouvoir le reproduire dans d'autres zones équivalentes du plan mobilité. On pense bien entendu à la zone de la Bège, on pense à la zone de Balma avec la TECOR et les grandes entreprises qui s'y délocalisent, on pense à la zone Tournefeuille-Colomiers où là aussi il y a beaucoup d'entreprises. Donc l'enjeu, c'est d'avoir un modèle qui soit reproductible dans d'autres espaces géographiques proches. Ça, c'est la stratégie toulousaine. Mais pour l'Europe, l'idée, c'est de pouvoir montrer sur l'ensemble du territoire européen qu'il y a des expériences qui marchent et donc inciter d'autres territoires, en particulier à l'étranger, les inciter à faire la même chose.
Donc ça voudrait dire que, d'une certaine manière, le projet Commute à Toulouse, c'est une espèce de chantier pilote qui va servir de base par les expérimentations qui vont être menées pour le déployer ailleurs.
Exactement, c'est tout l'esprit de ce projet porté par l'Europe. L'Europe dit qu'il faut sortir du cadre classique du développement des mobilités pour innover. Et donc, ce lancement vise à donner des modèles reproductibles.
Les modes doux, on en parlait tout à l'heure, comment ils sont intégrés dans le dispositif? Est-ce qu'ils ont une part vraiment très importante?
Fondamental, c'est une zone où on sait que, par exemple, le vélo est susceptible de se développer plus qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que la sociologie des salariés qui sont sur cette zone est très adaptée au mode doux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire développement des accès cyclables protégés, vélo partagé aussi. C'est des zones où l'accès à pied est facilité, parce qu'on oublie souvent, mais un des principaux modes de déplacement dans l'agglomération, c'est la marche à pied. Voilà, donc on est sur ces logiques-là, et donc on a des dispositifs qui vont permettre l'amélioration des flux. Au-delà de l'infrastructure que constitue la piste cyclable, il peut y avoir des aides à la mobilité extrêmement utiles.
Alors je suppose que lorsqu'on a réfléchi au dispositif, les associations de développement d'utilisation des modes de déplacement doux ont été consultées et intégrées dans la réflexion.
Bien sûr. Par exemple, Tisséo est pilote dans la mise en place d'un plan de déplacement doux en vélo. Suite à l'enquête publique, on nous a demandé d'être le coordinateur de ce dispositif. Et bien, dans ce plan, il y a bien entendu la zone aéroportuaire. Et dans les partenaires qui travaillent avec nous, on trouve Deux Pieds de Roue, on trouve la Maison du Vélo, on trouve des associations qui travaillent et avec efficacité sur les déplacements doux.
Est-ce que les entreprises du secteur aéroportuaire ont également été consultées et impliquées dans le projet?
D'abord les partenaires. J'ai énuméré tout à l'heure la liste des partenaires. On s'aperçoit qu'il y a les grands groupes aéronautiques derrière et ce sont eux qui sont leaders par rapport à ça. Ces grands groupes, ils ont des sous-traitants, ils ont des partenaires et ils intègrent dans leur réflexion tout ce travail parce que la mobilité pour Airbus, elle concerne l'entreprise elle-même, elle concerne aussi tout l'environnement de l'entreprise. Et donc Airbus ne peut pas négliger cet environnement, au contraire, ça participe à sa productivité. Et donc ces grands partenaires industriels mobilisent de nombreux partenaires qui ont aussi la possibilité de s'agréger au projet. Ce ne sont pas des partenaires créateurs du départ de ce projet, mais ils deviennent partenaires de fait de sa mise en œuvre.
Parce que je pense aussi, on n'en a pas parlé, il y a vraiment des enjeux de santé publique. Alors on pense évidemment à diminuer la pollution, l'émanation de gaz d'échappement, les choses comme ça, mais aussi la diminution du stress du déplacement qui est très important.
Tout à fait, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez parce qu'on parle de l'air et c'est fondamental, mais il y a derrière un enjeu qui est un enjeu immatériel, c'est la productivité de l'entreprise, avec l'idée qu'un salarié qui arrive après avoir passé une heure dans un bouchon, il va être sans doute moins performant que le salarié qui sera arrivé tranquillement dans l'entreprise. Donc il y a derrière des choses qui sont plus difficiles à mesurer, mais qui sont tout aussi fondamentales.
Qui relèvent de la qualité de vie en général, mais aussi de la qualité de vie au travail.
Bien sûr, là je pense que chaque entreprise sait que le stress du salarié est un facteur très délicat à gérer dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise.
Quels sont les résultats attendus de Commut et à quel horizon? Quels objectifs vous êtes fixés en termes de retour sur investissement, si on peut dire?
Alors, on a des résultats que l'on attend immédiatement. On a lancé un processus d'organisation du covoiturage avec un opérateur covoiturage. L'enjeu, c'est de mesurer, j'allais dire au fil de l'eau, la réussite de ce dispositif. On sait déjà que de nombreux salariés de cette zone ont commencé à s'intéresser à ce dispositif. Donc on a un processus qui est enclenché, dont on va mesurer, j'allais dire au fur et à mesure, l'évolution. Et puis, on a tous nos projets qui sont liés aux zones de covoiturage, aux espaces partagés, qui là sont des projets, j'allais dire, moyen terme. On est sur une évaluation à, je dirais, 2 ans, et puis on a le gros projet de plateforme numérique qui là est plus lourd à mettre en œuvre, et j'allais dire que là on est sur une évaluation à 3-4 ans.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été réalisé à la fin de l'année 2018? Qu'est-ce qui doit l'être en 2019? Puis en 2020, qui devrait être le terme du projet complètement finalisé?
Alors, ce qu'on développe d'abord, ça a été la première opération Commut, c'est le covoiturage. Ensuite, on a le transport partagé. Alors, on a parlé de Pibrac, c'est l'exemple type. Hein, la mise en place de zones de covoiturage sur ce territoire-là qui favorise ce covoiturage. On a de l'expérimentation qui a été faite sur la navette autonome, mais là, on n'est pas encore sur des résultats efficaces parce que, en particulier, le droit français doit évoluer pour qu'on arrive à quelque chose d'opérationnel. Et puis, on a ce projet, j'allais dire moyen terme, qui est la plateforme qui est plus complexe à mettre en œuvre que les projets précédents et qui nous amène à espérer des résultats à 3-4 ans.
Alors, vous avez parlé de la navette autonome, je voudrais qu'on fasse un petit point, un petit arrêt là-dessus. Jusqu'où ça pourrait aller? On pourrait imaginer transporter combien de personnes dans un véhicule proprement dit et multiplier ça à quelle échelle?
Si on se base sur les dispositifs en place, en expérimentation, on est sur des navettes autonomes qui contiennent environ 12 personnes, hein, cela, avec des trajets qui restent à définir. On a une réflexion sur Pibrac, par exemple, et qui vont constituer des compléments de déplacement. Tisséo travaille, par exemple, sur ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire l'utilisation de la navette autonome pour terminer un parcours et amener le passager jusqu'à son lieu de travail. Alors, on est sur une phase qui reste expérimentale parce que le droit français aujourd'hui ne nous permet pas de passer à une phase utile, j'allais dire. Il faut que le problème de la personne située à l'intérieur de la navette autonome, qui est toujours obligatoire, soit traité. Ça n'a pas de sens hein, de maintenir ça. Il faut que des problèmes de sécurité soient réglés. Ce n'est pas encore le cas. Donc, on est dans une phase où on n'est pas encore en capacité de développer le dispositif, mais on n'est pas loin et on sait qu'un jour, la navette autonome sera en place sur le territoire. Elle sera en place sur des zones aéroportuaires peut-être. Elle sera un outil de jonction des grands équipements de ces zones. Je pense au Parc Expo qui est au cœur de la zone et qui pourrait être connecté par exemple en navette autonome avec l'aéroport, etc., etc.
Je reviens dans le monde de l'entreprise, l'installation d'une flexibilité horaire. Vous avez parlé d'horaire décalé. Est-ce qu'ils sont vraiment ouverts à ça? Est-ce qu'ils ont compris que c'était vraiment leur intérêt?
Airbus a déjà commencé. Airbus a compris qu'en décalant les horaires d'arrivée de groupes de salariés, on améliorait les dispositifs. Airbus a compris qu'en arrêtant les salariés en amont, le temps que la décongestion se fasse, ils gagnaient en productivité. Et d'autres industriels ont compris la même chose. Ils sont ouverts à ce genre de choses. Ils y ont intérêt. Ils savent que fixer à 8 heures du matin précise l'arrivée de tous leurs salariés, c'est une erreur. Donc, ils sont en train d'imaginer des modes modernes de gestion du temps, d'aménagement du temps, pour permettre cette évolution.
Et est-ce que ça passe aussi par le développement du télétravail, qui à une époque était un peu un tabou? J'ai l'impression vraiment que les choses évoluent dans ce domaine aussi.
On assiste à une accélération très forte de la mise en œuvre du télétravail, c'est une évidence. C'est une évidence, les premières expériences ont été plutôt positives, ça améliore beaucoup de choses. Et sous réserve de garder quelques fondamentaux, c'est-à-dire la présence du salarié sur l'entreprise à des moments donnés pour que la notion de groupe demeure, le travail collaboratif demeure, etc. Mais à partir de là, on peut faire un tri entre ce qui est indispensable en présentiel et ce qui l'est moins. Et ce qui l'est moins peut être plus efficacement traité en télétravail.
Est-ce que Toulouse est la seule métropole française à avoir implanté le projet Commut, à être en train de le développer?
Sur la France, oui. On est sur un projet qui est vraiment majeur et développé par Toulouse. Alors quand je dis Toulouse, c'est bien entendu la métropole au sens large. Hein. On est sur un territoire plus que sur une ville, mais on retrouve avec ce projet l'identité toulousaine, l'aéronautique, l'innovation, et je crois qu'on était sans doute la métropole la mieux placée, pas seulement en termes d'image, en termes de fonds, pour développer ce type de projet.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Métropole et vous, il faut le conclure. Un grand merci à vous, Jean-Michel Lat, d'en avoir été l'invité et de nous avoir fait découvrir le contenu de ce projet Commute, ses gros enjeux, ses objectifs. Inutile de rappeler que la question des déplacements, des mobilités à Toulouse est un des principaux défis des 10 ans à venir, peut-être même des 5 ans à venir d'ailleurs. Le relevé n'est pas simple étant donné le contexte auquel est confrontée notre métropole. Je pense en premier lieu à sa croissance démographique dont nous parlons si souvent dans cette émission. Et comment ne pas en parler d'ailleurs, puisqu'elle a un impact dans presque tous les domaines. Il faut donc absolument le prendre en compte et y apporter des solutions, notamment en ce qui concerne les transports et les déplacements, ce à quoi le projet Commute participe. J'espère que cette émission vous en aura donné la vision la plus claire possible. En attendant, le déploiement de Commute se poursuit et vous pouvez trouver tout le détail et le calendrier du projet sur le site de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr à la catégorie projet. Et toujours sur ce même site, je vous invite également à consulter le projet mobilité à la catégorie mission rubrique déplacement. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.